Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Il fait la grande voile!
Écologie.
Il n'y a pas de voile, abruti!
Politique, culture et société. Et parfois, un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Et au programme de cette émission, nous allons parler de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public qui a fait beaucoup de bruit ces derniers mois, menée par le député ciotiste Charles Alloncle. Des questions se posent, a-t-elle été d'une réelle utilité ou a-t-elle seulement permis de remettre sur la table la question du démantèlement de l'audiovisuel public? On en parle ce soir avec Emmanuel Popard du Syndicat National des Journalistes. En deuxième partie d'émission, permettre l'accès à la nourriture bio, notamment aux femmes enceintes, c'est ce que proposent les ordonnances vertes depuis 2024. Sur Angers, le but protéger des perturbateurs endocriniens qui peuvent être nuisibles à la santé. On en parle avec Nicolas Esbrook, maraîcher bio à l'initiative de la démarche sur Angers. Et ce soir, votre chronique cinéma avec Isabelle qui continue de nous parler du Festival de Cannes et d'une tribune parue dans Libération qui dénonce la place de Vincent Bolloré dans le cinéma. Voilà, vous savez tout de ce sous-marin du mercredi 20 mai 2026, alors ajustez votre gilet de sauvetage parce que le sous-marin met les voiles.
18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et comme tous les mercredis, c'est votre rendez-vous dans le sous-marin. Isabelle est présente pour parler cinéma. Salut Isabelle.
Salut Jules.
Alors le Festival de Cannes bat son plein encore, mais avec une invitée surprise qui agite la croisette.
Oui, son nom c'est polémique. Alors l'histoire commence par une tribune signée dans Libération par 600 professionnels du cinéma. Ils veulent dire leur crainte d'une mainmise de l'extrême droite sur tous les domaines du cinéma. Et dans le viseur, l'Empire Bolloré, propriétaire entre autres de Canal+, qui doit racheter en plus UGC, qui est un des principaux exploitants de salles.
Alors justement, quel est le poids aujourd'hui de Canal+ dans le cinéma?
C'est un poids lourd sur le plan financier. Le groupe il fait partie des trois principaux financeurs du cinéma, largement devant le CNC et France TV. Mais il faut savoir que Canal+, c'est la contrepartie pour pouvoir diffuser les films 6 mois après leur sortie. Netflix, c'est 15 mois et France TV, c'est 22 mois. Donc, pour les abonnés, ce n'est pas gratuit. Donc, c'est eux aussi qui payent ça. Ce n'est pas de la philanthropie de la part de Bolloré.
Et alors, pourquoi cette tribune a-t-elle enflammé la croisette?
Plus que la tribune, c'est la réaction de Maxime Sada, PDG de Canal+, qui a mis le feu aux poudres parce qu'il a déclaré qu'il ne travaillerait plus avec les personnes qui ont signé.
Et donc, face à cette polémique, comment ont réagi les professionnels du cinéma?
Alors certains, comme les officiels, ne veulent pas trop mettre de l'huile sur le feu, mais beaucoup saluent d'ailleurs les équipes actuelles de Canal, tout en craignant qu'un jour ces personnes disparaissent. D'autres défendent la liberté d'expression et condamnent bien sûr la liste noire établie par Maxime Sada, qui renvoie à d'autres temps. Certains, encore comme la cinéaste Jeanne Herry et ses producteurs, assurent qu'ils continueront à travailler avec les signataires. Donc c'est une affaire à suivre.
Pause musicale maintenant avec une palme d'or d'honneur surprise remise vendredi dernier.
Alors, je vois que tu es en train de danser, Jules. John Travolta, célèbre pour son déhanché, danse dans cet extrait de Grease avec Olivia Newton-John. C'est un film qui est sorti en 1978. Travolta, c'est aussi l'acteur de Pulp Fiction avec sa danse iconique dans Pulp Fiction. Je pense que tu danses peut-être comme ça encore. Avec Uma Thurman, c'est un film de Quentin Tarantino. Et il a été très, très ému parce qu'il a reçu donc une palme d'or d'honneur. Et il a déclaré que pour lui, c'était encore plus prestigieux qu'un Oscar.
Hors compétition aussi, un film à voir dès aujourd'hui aux 400 coups que tu recommandes.
Oui, c'est L'Abandon de Vincent Carenc. Il s'agit des 11 derniers jours du professeur d'histoire Samuel Paty, assassiné à la sortie de l'école en 2020 par un jeune islamiste. Il avait présenté à ses élèves, Samuel Paty, deux caricatures de Mahomet de Charlie Hebdo. C'est un film qui colle aux faits, mais tout en étant une fiction, le cinéaste dit que c'est pour mieux faire ressentir, et il ajoute « ce n'est pas un film à charge, mais un film pour comprendre ». C'est un film pour les ados et un film de réconciliation, et c'est à voir aux 400 coups. Et enfin, pour les fans de remise de prix, le palmarès du festival, c'est samedi à 20h30. On y sera.
J'espère que tout le monde a bien noté dans ses agendas aussi.
Ouais.
Merci beaucoup Isabelle.
Merci,
pour cette chronique.
Ouais.
Et on te retrouve la semaine prochaine.
Oui,
pour
la semaine prochaine.
La dernière chronique du sous-marin quand même.
Ouais.
Ah là là, ça fait quelque chose.
Exactement.
Des débats étalés sur 6 mois, avec 247 personnes interrogées, la commission d'enquête sur l'audiovisuel public a fait beaucoup de bruit ces derniers mois. Menée par le député ciotiste Charles Alloncle, elle visait à enquêter sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Qu'en est-il réellement? On en parle avec Emmanuel Popard du SNJ. Salut.
Bonjour.
Alors peut-être avant de se lancer complètement dans le sujet, est-ce que tu peux nous présenter un peu à quoi sert le SNJ et qu'est-ce qu'il représente?
Oui, alors, petit historique du Syndicat national des journalistes, qui est le premier syndicat de la profession, fondé en 1918 en pleine guerre, sur des fondements déontologiques et éthiques de la profession. Donc on va y revenir parce qu'on est en plein dans le sujet. Mmh. Le SNJ, première organisation de la profession, et aussi première organisation à la carte de presse, une commission nationale qui délivre chaque année la commission de la carte. Donc c'est chaque année une commission spécifique, à la fois composée de journalistes et d'employeurs qui remettent la carte de presse. Mais on peut en reparler aussi tout à l'heure.
Oui, on va sûrement en reparler. Alors en septembre 2025, le média d'extrême droite L'Incorrect diffuse une vidéo sur les réseaux. On y voit Patrick Cohen et Thomas Legrand, tous deux journalistes sur les services publics, discuter avec des cadres du Parti Socialiste. Les médias du groupe Bolloré s'emparent vivement du sujet, voyant là une conspiration contre la droite, jusqu'à ce que l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, connu pour sa volonté de vouloir privatiser l'audiovisuel public, propose d'enquêter sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Une commission d'enquête donc, qui se crée en octobre 2025 avec Charles Alloncle comme rapporteur. Donc tout part de cette vidéo, en tout cas voilà, ça en suit. Qu'est-ce qui est reproché dans cette vidéo à Patrick Cohen et Thomas Legrand?
Oui, ce qui est reproché dans cette vidéo-là, c'est finalement d'avoir des propos contre l'extrême droite et de favoriser finalement la gauche. Sauf qu'il faut bien remettre les choses dans son contexte. Cette vidéo, elle a été prise à l'insu de leur plein gré. Et donc, il y a des bribes qui ont été rapportées. Donc, il faut remettre les choses dans le contexte. Voilà. En plus, il s'agit d'un déjeuner privé. La difficulté qu'on a, c'est que nous, journalistes, on a la pierre angulaire de la profession, c'est le secret de nos sources. Mmh. Et donc, à partir du moment où, dans un déjeuner privé, on échange avec des personnalités politiques, on est écouté, là, il y a une atteinte au secret des sources. Et ça pose quand même des difficultés pour l'exercice de notre profession. Alors, je pense que Thomas Legrand et Patrick Cohen ont certainement dû balayer devant leur porte depuis ce moment-là. Et peut-être que la prochaine fois, ils feront d'autres discussions plutôt en dehors des regards et des micros.
Mmh. Mais ils avaient le droit, comme c'est dans leur cadre personnel, normalement, il n'y a pas de problématique.
Oui, Jules, tu fais bien de le rappeler, c'est une carte totalement personnelle, puisqu'on est aussi citoyen avant tout, hein, voilà, même si ce sont des journalistes et des chroniqueurs, notamment sur la télévision et l'audiovisuel privé Radio France. Mais en tout cas, voilà, c'est une discussion officieuse qu'on discute entre gens bien élevés.
Mmh. Voilà. Alors la commission d'enquête vise à étudier la neutralité des services publics. La question qu'on peut se poser alors, mais est-ce que c'est possible d'être véritablement neutre et est-ce que la neutralité elle-même n'est pas une prise de position en soi, finalement?
Oui, c'est assez juste comme question parce que la neutralité, quand on pense neutralité, on pense objectivité. Objectivité du journaliste. Et l'objectivité n'existe pas. Mmh. Ce n'est pas possible. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas être non plus subjectif. Je veux dire, quand on écrit un papier, on fait une émission, etc., on met forcément de soi dedans. Mmh. Donc il y a une part d'objectivité. En revanche, ce qu'on demande aux journalistes, c'est d'être honnête. Et l'honnêteté, c'est des choses qui s'apprennent dans des écoles de journalisme, et notamment sur la question de l'éthique et de l'éthique professionnelle. On a, comme je vous le disais tout à l'heure, un syndicat qui a plus de 100 ans, et qui est né sur des fondements déontologiques et éthiques de la profession. Et on devrait, chaque journaliste, lire presque chaque jour cette charte d'éthique qui existe pour se dire, voilà, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire sur les pratiques du métier. La neutralité, on voit bien que rien que dans la question et le propos du nom de cette commission-là, on va chercher la petite bête.
Alors, mais en plus, cette charte, elle doit s'appliquer aux journalistes du service public, mais aussi du secteur privé.
Oui, la charte, normalement, et la charte, il y a même les chartes, il y a plusieurs chartes déontologiques qui existent aujourd'hui. Je vais pas vous les citer, mais en tout cas, ces chartes de déontologie, ce code de la route de la profession, cette déontologie-là, elle doit s'appliquer à toutes et tous. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une profession où il y a des dispositifs législatifs, mais qui ne sont pas aboutis en termes de déontologie. Donc les questions déontologiques dans les rédactions, elles devraient être davantage abordées presque tous les jours. Ça veut dire que l'émission qu'on a faite, le journal qu'on a fait, est-ce qu'on l'a bien fait, comment on l'a traité ? Et tout ça, malheureusement, c'est mis de côté, alors qu'on devrait... L'autocritique, c'est sain chez nous, et c'est ce qu'on demande à avoir. Et on demande à avoir un arsenal juridique et législatif pour nous aider dans ce sens-là, à avoir davantage de déontologie dans les rédactions.
Alors on a vu que le sujet, il a été emparé par les médias Bolloré, qui sont des médias avec une mouvance politique plutôt à droite. Pascal Praud a même félicité le courage de Charles Laloncle. Ça ressemble à une bataille politique avant tout, en fait.
Oui, bah, c'est clairement une bataille politique, c'est une chasse aux sorcières, on peut dire tous les mots, c'est du dénigrement. Moi, j'ai assisté, et je pense comme de nombreux Français, à cette audition, à ces auditions parlementaires, cette commission. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de Français qui regardaient toutes les commissions précédentes. Mais c'est vrai que ça a duré près de 6 mois. Ça a été très long. Il y a eu des sorties et des questions de Charles-Henri Laloncle assez orientées quand même, pour aller chercher encore une fois la petite bête et chercher les choses qui font mal. Moi, j'ai beaucoup aimé le sang-froid des interlocuteurs, etc. Et voilà, le service public, le journalisme, les médias peuvent être critiqués, évidemment. Mais le tout, c'est de le faire dans un bon cadre et de manière plutôt intelligente, ce qui n'était pas vraiment le cas de la commission parlementaire.
Oui, certains y voient même une manière pour le député Charles Laloncle de se mettre en avant, de se faire connaître en vue des prochaines élections peut-être. Est-ce que c'est un constat que tu partages toi aussi ?
Oui, totalement partagé. On voit totalement la mainmise de l'extrême droite sur cette commission parlementaire-là, très clairement. Et on voit le service après-vente qui est assuré par CNews derrière. Et donc, la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est comment on arrive à délivrer au grand public une information de qualité. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la radio, la télévision, etc., les podcasts, il y a beaucoup d'informations qui arrivent aux yeux, aux oreilles du public. Sauf que cette information-là, comment elle arrive et comment elle est décryptée ? La seule personne qui arrive à donner une information qualité la plus honnête possible, c'est le journaliste. C'est le journaliste et c'est son rôle dans la société.
Justement, le rapporteur Charles Laloncle n'a pas hésité à tweeter sur le réseau social X l'avancée de l'enquête, et souvent de manière inexacte ou en ne laissant pas la réponse des concernés. C'est aussi tout ce qui a entouré ça qui a fait du bruit.
Ah oui, mais complètement, il y a eu du buzz autour de ça. Et encore une fois, il y a une dérive sur laquelle on assiste beaucoup sur les médias, notamment, je vais encore citer CNews, mais c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que je suis monsieur ou madame un tel, je suis un éditorialiste, je donne mon opinion, et mon opinion, c'est la bonne chose. C'est ce qu'il faut suivre. Non, une opinion, chacun a une opinion, etc., mais ce n'est pas la voie à suivre. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un moment où l'information doit être rendue au public, et il y a vraiment une guerre de la désinformation, des fake news, et en effet, ces fameux tweets envoyés par Charles-Henri Laloncle, ils sont là aussi pour déstabiliser l'opinion, pour le grand public, pour essayer d'accaparer le discours. On voit bien que c'est une question de discours après, derrière, pour des enjeux politiques. La présidentielle, c'est dans un an.
Tu dirais que maintenant, les opinions valent plus que des faits, parfois même sur les plateaux de télé ?
Oui, finalement, c'est ça. On en est rendu à penser que finalement, l'opinion est beaucoup plus sacrée que les faits. Alors que le fait, il est sacré, puisque de toute façon, le fait, c'est ce qui s'est passé et produit. Donc celui-là, on peut pas le dénigrer, il existe. Une opinion, c'est une opinion parmi tant d'autres.
Ensuite, le rapport a été adopté finalement par les parlementaires. 12 pour, 10 contre et 8 abstentions. On se demande comment c'est possible que ce rapport ait été adopté avec autant d'incohérences, d'omissions et d'erreurs en plus à l'intérieur.
Oui, complètement. C'est vrai qu'on se dit que finalement, en le publiant, certains vont dire bah, « très bien, on voit bien que c'est une tissu de mensonges, etc. » Mais ça fait aussi tache d'huile quand même en disant, sur l'extrême droite, sur certains parlementaires de l'Union des droites, qui veulent dire bah, « oh, il y a des bonnes idées là-dedans, on va essayer de les chercher, etc. » Encore une fois, l'audiovisuel public, ce n'est pas un secteur qui est qui ne doit pas être critiqué. On doit critiquer les choses. Encore une fois, faut-il le faire dans le bon cadre. La difficulté, c'est vrai que c'est passé à quelques voix près sur ce rapport du public. Il ne vous a pas échappé aussi qu'une fois que ce rapport a été rendu public, il y a eu aussi d'autres contre-rapports qui ont été publiés, notamment Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, qui a publié un contre-rapport en disant « ce que vous avez dit là, c'est faux ». Puisqu'il y a plein de choses qui sont interprétées et c'est vraiment faux. Donc c'est vraiment des opinions.
Et pourtant, on en parle moins de ce contre-rapport, j'ai l'impression quand même.
On en parle beaucoup moins, ça fait moins le buzz malheureusement.
Et est-ce que tu trouves que c'est une victoire aussi pour les idées d'extrême droite d'avoir réussi à vraiment focaliser l'attention sur cette commission d'enquête pour instaurer une méfiance contre le duel public aussi quoi. Ça a vraiment amené les débats à ça.
Ouais, j'aime pas trop le thème de victoire, mais c'est vrai que l'extrême droite a utilisé finalement les outils parlementaires à leur disposition pour arriver à leur fin, pour faire passer des idées. Et on voit très bien comment demain pourrait se dérouler une France qui roule au Rassemblement national et à l'extrême droite, avec ses méthodes. Voilà, donc non, c'est extrêmement regrettable. Donc victoire, je partage pas trop le point de vue, en tout cas le vocabulaire.
On va continuer à parler de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public menée par Charles Alloncle, mais d'abord on va faire une pause musicale. On va écouter le chanteur Thundercat qui interprète le chagrin de la perte dans son nouvel album Distraction. C'est avec un nouveau morceau de jazz qu'il parle de ses premières petites amies. C'est Walking on the Moon de Thundercat. À tout de suite.
So
C'était Walking on the Moon de Thundercat. Vous êtes toujours à bord du sous-marin sur Radio Campus Angers. Et on continue à parler de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public avec Emmanuel Popard du SNJ. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce rapport ? Il propose de couper 1 milliard d'euros dans le budget sur les 4 milliards, de fusionner France 2 et France 5, fusionner France Info et France 24, ou encore de supprimer Move et France 4. Qu'est-ce que ça entraînerait, tout ça, concrètement ?
Une atteinte au pluralisme. L'atteinte au pluralisme, ça veut dire que on enlève des chaînes, on enlève des canaux, on enlève des émissions, et on aura moins de choses à offrir aux Françaises et aux Français, aux citoyens, à la société. Et donc c'est une difficulté, parce que la diversité des points de vue et des opinions, c'est important aujourd'hui pour construire une société et faire société. Et ça, c'est des difficultés qui sont pointées dans la commission parlementaire. Je rappelle que l'audiovisuel public, avant cette commission-là, elle est aussi le tir de barrage nourri de nombreux partis, de droite majoritairement, et aussi la Macronie, qui a voulu notamment faire une sorte de fusion, une holding au-dessus de l'audiovisuel public, pour faire une holding au-dessus de Radio France et de France Télévisions, pour pouvoir concentrer donc l'audiovisuel public en un seul mot, c'est-à-dire revenir à l'ORTF. Alors moi, j'étais pas né sur l'ORTF, c'était à l'époque de 74, etc., bon, où c'était, il y avait un ministère de l'information, bon, bref. Donc il y a des tentatives de mainmise qui sont vraiment mises en place, et la difficulté aussi, c'est la question du financement, puisque le financement, on voit bien, pour faire des émissions, embaucher du monde, il faut évidemment de l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il y a eu un avant et après redevance. Il y avait une taxe d'habitation où la redevance était adossée à cette taxe d'habitation. La taxe d'habitation a disparu. Et donc, quid de remplacer cette redevance qui servait à financer l'audiovisuel public. Et donc, les débats parlementaires, il y a 3 ans maintenant, ont abouti à une part de la TVA qui est déterminé pour financer l'audiovisuel public. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque année, il faut que les responsables de l'audiovisuel public aillent quémander, finalement, aux politiques. C'est ça, aux politiques. Combien vous me donnez pour assurer le budget de l'année prochaine ? Donc les politiques, les parlementaires, donc des gens comme vous et moi qui peuvent vous dire demain, si vous écrivez une chose qui ne me va pas, moi, je ne voterai pas en faveur des crédits alloués l'année prochaine. Donc, on voit bien qu'il y a une tentative quand même de mainmise sur l'audiovisuel public, sur les journalistes, sur les rédactions. Et il n'y a pas d'indépendance et de liberté. On demande une indépendance totale de l'audiovisuel public.
Alors, le rapport de cette commission d'enquête, il pourra servir de base pour des futures propositions de loi. Est-ce que ça voudrait dire que les débats pourraient se poursuivre encore à l'Assemblée sur cette question du démantèlement des services publics, de l'audiovisuel public ?
Alors, oui, ça pourrait éventuellement se poursuivre, sauf qu'il y a tellement de choses qui arrivent à l'Assemblée nationale, et puis que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'année parlementaire va se terminer, il y a les élections qui vont arriver d'ici moins d'une année maintenant. Il y a d'autres débats qui vont arriver. En revanche, ce qui peut arriver et ce qu'on attend depuis longtemps, c'est les fameuses dispositions législatives des états généraux de l'information. Je vais rentrer un peu dans des éléments techniques, mais au niveau de l'Union européenne, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour protéger les journalistes et puis pour garantir l'indépendance de l'audiovisuel public au sens large en Europe. Et donc, il y a des dispositions réglementaires au niveau européen qui sont déclinées, qui sont imposées par l'Europe dans les États membres. Et donc, ce règlement européen doit être maintenant appliqué en France et dans d'autres pays européens. Et on est à la traîne sur différentes dispositions réglementaires européennes. Et donc, on attend du ministère de la Culture, qui est le ministère de tutelle des journalistes, que ces dispositions soient vraiment mises en place pour éventuellement garantir un audiovisuel public fort, puisque même en Europe, on l'a vu en Hongrie avec Orban, quelqu'un d'extrême droite, qui a aussi démantelé, c'était la première des choses. En 2024, Trump, sur la deuxième campagne, il s'en est pris aux services publics, parce que les services publics, ils ne sont pas à la solde de l'extrême droite. Donc, pour les mettre au pas, le seul moyen de les mettre au pas, c'est de toucher à l'argent, de démanteler, de pointer du doigt, etc.
Alors on parle justement de l'audiovisuel public depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux rappeler les grandes missions qu'il doit porter ? Quelle est son utilité aussi pour les Françaises et Français tous les jours, quoi ?
Alors l'audiovisuel public, c'est vrai que parfois on a tendance à dire ou à résumer que l'audiovisuel public c'est la télévision. c'est France 2, France 3, etc. L'audiovisuel public, c'est aussi tout Radio France. Radio France sur les concerts philharmoniques, etc. Moi, j'invite les éditeurs du Sous-Marin à aller faire un saut sur le podcast de Radio France et d'écouter les podcasts magnifiques de Tintin, d'après Hergé, refait par les émissions de Radio France et l'orchestre symphonique de Radio France. C'est prodigieux. C'est prodigieux. Ça m'en met encore les poils. Mais c'est vraiment magnifique. Et en fait, ces choses-là qui sont données, offertes par le service public, elles sont données... c'est nos impôts, etc. Donc, je ne suis pas persuadé qu'en payant un Netflix ou une Prime, on aura 4 chaînes de télévision, autant de chaînes de radio gratuitement, quoi. Donc, c'est une diversité qui est apportée de points de vue, etc. Et encore une fois, c'est une richesse et c'est une information qui est fiable, de qualité, avec des émissions qui donnent les points de vue de chacun.
Donc la commission d'enquête, elle passe à côté des questions sur l'audiovisuel pour rendre justement l'audiovisuel public meilleur, mais ça va davantage être dans l'attaque de ces structures-là, donc il n'y a pas de pensée de fond sur le duel public.
Non, il n'y a aucune pensée de fond, c'est vraiment une pensée hiérarchique ou idéologique de l'extrême droite de s'attaquer à l'audiovisuel public. Parce que c'est sans doute mieux sur le privé, parce que sur le privé, on fait un peu ce qu'on veut, etc. On le voit encore une fois sur CNews. Et sur CNews, sur des émissions où on croit que ce sont des journalistes, ce ne sont pas des journalistes. Un journaliste, encore une fois, il a un rôle dans la société. Il doit vérifier l'information, il doit la hiérarchiser. On voit bien que sur ces émissions-là, il n'y a aucune hiérarchisation de l'information. Le petit truc du coin est mis en complètement monté dans tous les sens, et c'est complètement un miroir déformant, et on trompe la réalité.
Alors on va continuer à parler encore un petit peu de cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public, mais d'abord on va faire une autre petite pause musicale. On va écouter un son qui fait rimer l'anglais, le français et l'espagnol avec or. Elle propose une balade folk avec son second single Mi Corazón. Tout de suite, c'est Mi Corazón d'or.
Un peu personne, mi corazón. Qui de nous deux a eu peur un peu des deux qui abandonne mi corazón.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
C'était Mick Horason. D'autres, vous êtes toujours sur Radio Campus Angers et on va continuer à parler de la commission d'enquête, mais j'avais aussi envie de parler d'autres choses sur le journalisme, peut-être parler un peu des procédures Bayon, cette manière détournée d'aller attaquer la liberté d'expression des journalistes, la liberté de faire leur travail. Comment est-ce que ça se passe, ces procédures Bayon ?
On a vu apparaître les procédures Bayon il y a 5-6 ans. Et en effet, c'est une manière législative détournée de ne pas emprunter le droit de la presse pour s'en prendre aux journalistes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas. En tant qu'annonceur, c'est souvent des grands patrons comme Bolloré ou Draghi, par exemple, pour ne pas les citer. Je saisis le tribunal de commerce pour dire « Vous attaquez dans cet article, dans cette émission, mes affaires, sur le droit des affaires, donc vous n'avez pas le droit d'enquêter sur ça. C'est oust, voilà, ce qui se passe dans ma vie privée ou dans mes affaires, vous n'avez pas le droit d'enquêter dessus. » Et donc, la difficulté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, finalement, on empêche le journaliste de faire son travail. On empêche le journaliste d'enquêter et de faire éclater la vérité. Et donc, on réclame depuis longtemps une procédure qui permettrait de pointer du doigt ces procédures Bayon, c'est comme ça qu'on les appelle, pour pouvoir c'est une procédure Bayon, et donc tout ce qui est employé de manière législative, c'est stoppé. Bon. On n'est pas les seuls au niveau français à avoir émis ces craintes-là, puisqu'il y a une directive européenne qui a mis en place une directive sur les procédures Bayon, qui a été déclinée dans les États membres le 7 mai dernier. Donc c'est tout récent. Bon. Donc c'est plutôt une avancée, sauf que la directive, elle n'est pas assez incitative. Et elle devrait aller beaucoup plus loin parce qu'aujourd'hui, la directive, elle s'en prend aux procédures Bayon transfrontalières. Ça veut dire que si c'est un autre pays qui s'en prend à un autre pays, enfin un ressortissant d'un autre pays, ça marche. Mmh. Quand c'est dans le même pays, ça ne marche pas. Donc ça pose problème quand même. Ça veut dire que... et on a eu le cas au SNJ, on était à côté d'un site internet qui s'appelait reflet.info, qui avait enquêté sur les affaires de Draghi. Il y a eu une procédure contre le journal, on était à leur côté, alors qu'ils avaient tout à fait le droit d'enquêter et de dire quels étaient les rapports de M. Drahi, d'un point de vue personnel, qui reflétaient sur ses affaires professionnelles, quoi.
Alors, comment on peut justifier que c'est bien une procédure Bayon et pas simplement une procédure qui est juste ?
Oui, le principe en fait de la directive, c'est de mettre en place une procédure de rejet rapide. Ça veut dire que c'est une structure juridique qui, à partir du moment où elle part du principe, elle analyse les faits en disant « si ça, on voit bien que c'est une manière détournée de s'en prendre à un journaliste, pof, on le met de côté, rejet rapide, c'est une procédure Bayon ». Donc le principe, il est assez simple, finalement. Oui. Le tout, c'est de donner les moyens suffisants pour que ça soit efficace.
Et alors, qui est-ce que ça touche particulièrement comme médias, ces procédures Bayon ? Est-ce que c'est plus des médias d'investigation, des médias qui font du bruit, qui essayent de déterrer les choses ?
C'est essentiellement ces médias-là. D'investigation, notamment sur la question de l'agroalimentaire, hein, très clairement. Et c'est ces médias-là, ça veut dire que l'investigation, l'enquête, c'est... oui, c'est très bien, on affiche qu'on est toujours attaché à l'investigation, à l'enquête. Par contre, quand c'est mes affaires... Hors de question, on ne s'en mêle pas. Donc, non. Le journaliste, il a le droit d'enquêter surtout pour faire éclater la vérité.
Alors, il y a quelques semaines, il y a eu un congrès mondial de la FIGE qui représente quand même 600 000 journalistes à travers le monde. Tu étais présent aussi ?
Oui, tout à fait.
De quoi vous avez discuté à ce moment-là ?
Alors, la FIGE, la Fédération internationale des journalistes, a été créée en 1926 à Paris par l'un des grands bonhommes et fondateurs du SNJ, Georges Bourdon, qui a été le premier président de la FIGE. Et en effet, la FIGE rassemble 600 000 journalistes dans 144 pays, beaucoup d'organisations et de journalistes et de travailleurs des médias, au sens large, puisque les législations et le statut du juriste professionnel ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et donc on parle plutôt de travailleurs des médias. Et donc on a parlé beaucoup de choses, évidemment, sur ce congrès centenaire. On fêtait nos 100 ans. On a parlé essentiellement de l'IA aussi, de l'arrivée de l'IA, qui, malheureusement, dans les rédactions, est beaucoup utilisée. Et c'est un réflexe d'essayer d'utiliser aussi l'IA pour remplacer des journalistes. On le voit encore récemment, les secrétaires de rédaction, qui sont des journalistes qui hiérarchisent l'information dans les journaux, ces postes-là sont supprimés Les éditeurs disent, bon, on va mettre l'IA à la place, c'est beaucoup plus simple, on appuie sur un bouton, allez, basta. Donc on supprime de la matière grise par une machine, voilà, qui est bête, hein, c'est pas parce que c'est une intelligence artificielle qu'elle est intelligente, elle est plutôt bête même, et surtout que la machine, elle est nourrie parce qu'on a envie de lui donner. Donc si on lui donne des fausses informations, elle va donner des fausses informations. Il y a beaucoup de personnes qui ont testé déjà hein, sur ChatGPT et d'autres, et qui ont vu des belles déconvenues quand même.
Ça a fait polémique justement il n'y a pas longtemps, un article de BFM TV où à la fin de l'article, on voyait que ça avait été généré par IA, puisque l'IA demandait si on voulait changer quelque chose au titre. Oui. Donc même déjà dès aujourd'hui, là, ça commence très, très fortement et très utilisé, à être utilisé l'IA.
Oui, c'est très utilisé. Puis c'est vrai qu'on voit finalement cette tentative d'utiliser maintenant qu'une seule manière de penser. Parce que bon, l'arrivée d'Internet, quand on clique maintenant, qu'on cherche quelque chose sur Internet, on a différentes occurrences qui apparaissent. Donc on peut chercher, on peut voir, etc. Là, c'est une IA qui va donner un ton, une tonalité, une version. Et donc, la pluralité des choses, des points de vue, c'est pareil, elle est aussi effacée. Donc, on est très, très méfiant vis-à-vis de l'IA. Et d'autant plus que l'IA, comme je le disais il y a quelques instants, elle se nourrit des choses qui existent. Et elle se nourrit surtout de production. Et les productions, c'est des productions journalistiques. Et les productions journalistiques, ce sont du droit d'auteur. Mmh. Et donc, ça veut dire que l'IA, les géants de la tech aux États-Unis, pillent le droit d'auteur, puis nos droits d'auteur, nous, auteurs et journalistes.
Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait totalement séparer de l'IA ou alors la redéfinir comme un outil au service de l'humain plutôt que qui remplace
l'IA ? C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, au service de l'humain, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a des avancées technologiques qui sont intéressantes. Après, on a en souvenir, des fois, sur les chroniques précédentes sur le cinéma, on a en souvenir sur Terminator, etc., Skynet, mais parfois, on a l'impression d'y être.
En tout cas, merci beaucoup, Emmanuel Popard, d'être venu dans le sous-marin ce soir pour nous parler d'abord de cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public, mais aussi on a pu parler d'autres choses, du coup.
De l'actualité de la profession.
Merci beaucoup, merci encore.
Merci à vous.
Alors, malheureusement, notre deuxième invité pour parler des ordonnances vertes n'a pas pu se rendre disponible ce soir, donc on finit rapidement le sous-marin qui termine sa traversée sur les ondes de campus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci à Elliot, à la technique. La programmation continue sur le Centre FM, alors restez avec nous et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.